Pas de blocage à Wenham ce matin. Les membres du comité de coordination coutumier de Jeou qui menaçaient de bloquer l'aérodrome étaient bien là, mais ils n'ont pas entravé l'accès à l'installation aéroportuaire. Déjeuner avec le président du Sénat, rencontre avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Les 9 élus calédoniens, membres de la mission transpartisane, rentrent dans le vif du sujet la nuit prochaine. La mort d'Édouard Balladur, Premier ministre sous François Mitterrand et candidat malheureux à la présidentielle. Il s'est éteint à l'âge de 97 ans. Apprendre l'histoire dans une salle de cinéma, c'est ludique et pédagogique. Et c'est ce que la province sud a souhaité expérimenter aujourd'hui. Explication dans ce journal. Un plateau sportif flambant neuf pour le groupe scolaire Michel de la Charlerie-Rolly à Dimbéa. L'équipement a été rénové après plusieurs années de dégradation due à son utilisation intense. Et puis le football et les bons débuts de la sélection calédonienne au tournoi des Océaniens des moins de 19 ans. Les Cagous sont imposés 4-2 sur les Samoa. Le tournoi est qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal direction Lifou pour débuter cette édition Lifou où il n'y a pas eu de blocage de l'aérodrome ce matin. Les membres du comité de coordination coutumière de Jeou avaient annoncé la reprise de leur mobilisation. Ils étaient donc présents sur place, mais ils n'ont pas bloqué l'accès à l'aérodrome, Léana Colombo.
Oui, le collectif reste fermement opposé au déménagement d'Air Calédonie à Tontouta, mais il semblerait que les communiqués du grand chef de Wedge, du haut commissaire et du procureur de la République et fait leur effet. Ce matin, l'avion d'Aircal s'est bien posé à Wanaham à 7h40 avec une trentaine de passagers à bord. 60 ont fait le chemin inverse de Lifou vers la Tontouta. Et il faut dire que les services de l'État étaient mobilisés sur place. Anaïsette Mansour, directrice de cabinet du haut commissaire.
La journée a été... C'est passé dans un climat serein. C'est une situation qui est à ce stade sous contrôle. On a en effet déployé quelques effectifs de gendarmes aux abords pour assurer le bon déplacement de l'ensemble des voyageurs ce matin depuis Lifou. C'est un dispositif de patrouille mobile qui ont pu aussi prendre attache avec les personnes qui étaient rassemblées pour manifester, qui se sont rassemblées pacifiquement. Donc il n'y a pas eu de blocage et ça, on s'en satisfait collectivement. Et voilà, les personnes qui souhaitaient revendiquer des choses ont pu le faire de façon pacifique. Alors bien sûr, nous, l'État, notre priorité, c'est d'assurer la sécurité et la sûreté aérienne. Donc on reste très attentif à l'évolution de la situation et on le sera dans les prochains jours, ça c'est certain.
Une cinquantaine de personnes a toutefois répondu à l'appel du comité de coordination coutumière de Jeou, mais sans bloquer l'aérodrome. La rotation d'Aircal a été effectuée sans encombre et sur l'île, certains habitants mobilisés contre le blocage se réjouissent. Parmi eux, Antoine Sinéoué.
En fait, c'est une bonne nouvelle. On écoute la parole des grands chefs. On se doit de l'écouter. On est des coutumiers. Et on est aussi des citoyens libres. Donc, la circulation, c'est un droit. On n'est pas là pour dire qu'il faut passer par Majota ou par Tontouta, mais on est là pour dire qu'il faut créer l'économie pour que ça crée de l'emploi. On a envie de créer de l'activité pour créer de l'économie sur l'île.
Rappelons que les vols ont repris depuis le 3 juin sur Lifou, après 3 mois d'interruption.
C'est cette nuit pour nous que les membres de la mission transpartisane rentrent dans le vif du sujet. Les 9 élus calédoniens déjeunent avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et les représentants des groupes politiques avant de rencontrer David Amiel, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. L'objectif de cette mission, c'est d'obtenir le soutien financier de l'État avec une aide d'urgence pour finir l'année 2026. Et les élus attendent le versement de la 4e tranche du PGE qui sera assortie de conditions de la part de l'État. Ils attendent également à des engagements pour l'année 2027 qui devront être inscrits dans la loi de finances de l'État. Pour la présidente de la province sud, Sonia Baquès, il s'agit de signer un contrat de responsabilité avec l'État.
L'idée, c'est de voir avec l'État, en fait, à faire un contrat de responsabilité, c'est-à-dire que l'État porte la responsabilité d'apporter les fonds, d'abord ceux auxquels il s'est engagé pour 2026, puis de préparer 2027, puisque aujourd'hui, le fait d'avoir encore 12 500 emplois en moins par rapport à ce qu'on avait, le fait d'avoir des pertes de recettes fiscales massives suite à ce qui s'est passé en 2024, font qu'on n'est pas en capacité d'équilibrer le budget. Donc, on a besoin de l'aide de l'État. En contrepartie, évidemment, la Nouvelle-Calédonie a intérêt à apporter apporter un certain nombre de réformes structurelles pour faire des économies de dépenses là où c'est nécessaire de les faire.
Sonia Baquès au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Demain, mercredi, les membres de la mission transpartisane ont rendez-vous à Matignon avec le Premier ministre Sébastien Lecornu avant de se rendre à l'Assemblée nationale pour un entretien avec la présidente Yael Braun-Pivet et les présidents de groupe. Jeudi, ils déjeuneront avec la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Le Forum des îles du Pacifique s'est ouvert hier au Palaos en l'absence de plusieurs dirigeants et dans un contexte d'aggravation des tensions entre Taïwan et la Chine. Ces frictions risquent d'occulter les priorités régionales comme le changement climatique et le trafic de drogue. Elisabeth Loire.
Les îles Palaos sont les hôtes jusqu'à jeudi du 55e Forum des îles du Pacifique, composé, rappelons-le, de 18 membres. La Nouvelle-Calédonie est représentée par le membre du gouvernement Alcide Ponga, qui avait déjà participé au précédent forum organisé en 2025 au Salomon, en l'absence du président Mila Kouloutou-Koumouli, qui est actuellement, on le sait, à Paris. Un sommet auquel participe également une délégation française. Elle est conduite par Éléonore Carroix, c'est la ministre des Partenariats internationaux de la francophonie et des Français de l'étranger. A noter par ailleurs que le président du FLNKS, Christian Théin, est lui aussi à Palaos. Il participe à ce sommet au sein de la délégation du groupe mélanésien Fer de Lance. Le thème essentiel de ce sommet, ce devait être le changement climatique. Mais les tensions diplomatiques se sont invitées avec la présence à la fois de la Chine et de Taïwan. Pékin notamment a protesté contre l'invitation de Taipei. Le président des Palaos, Surungail Whips, a tenté de calmer le jeu lors de la cérémonie d'ouverture. Il a déclaré « Nos partenaires sont les bienvenus pour naviguer avec nous, mais ils ne choisissent pas notre destination ». Et il a rappelé à l'unité du Pacifique, un forum au cours duquel il devrait aussi être question de l'essai de missiles balistiques menés par la Chine dans la région le mois dernier. Mais vous vous en doutez, cela crée des remous et il n'y a pas d'accord sur le sujet entre les pays membres du forum.
Dans l'actualité ce soir également, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur est décédé à Paris à l'âge de 97 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille qui précise qu'une messe sera célébrée dans la stricte intimité familiale, Elisabeth.
Édouard Balladur est un monument de la vie politique française et les hommages se multiplient pour saluer un serviteur exigeant pour la France, un grand homme d'État ou une référence. Entré à 35 ans au cabinet de Georges Pompidou, alors Premier ministre du Général de Gaulle, il fut le dernier Premier ministre de François Mitterrand de mars 93 à mai 95, c'était l'heure de la seconde cohabitation. Édouard Balladur restera dans l'histoire comme l'ami de 30 ans de Jacques Chirac, devenu son rival lors de la campagne présidentielle de 95. Une campagne féroce au cours de laquelle la droite s'est déchirée. Des soutiens de Jacques Chirac avaient rejoint le camp Balladur. C'est le cas notamment de Nicolas Sarkozy, qui devint même le porte-parole de sa campagne. Ce sera aussi en Nouvelle-Calédonie le cas de Jacques Lafleur, qui avait soutenu Édouard Balladur. La suite, on la connaît. Édouard Balladur a été devancé au premier tour par Jacques Chirac. Il s'est effacé et il a appelé à voter pour son rival avec une phrase culte restée célèbre.
Les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Après sa défaite, Édouard Balladur va petit à petit prendre ses distances avec la vie publique. Mais les hommages aujourd'hui sont très nombreux. Édouard Balladur avait consacré sa vie à la 5e République, comme mentait Emmanuel Macron sur X, qui ajoute qu'il avait la France au cœur. Il en fut le serviteur exigeant, mesuré et dévoué. Le Premier ministre Sébastien Lecornu met en avant l'esprit réformateur d'une personnalité qui restera une référence pour beaucoup d'hommes et de femmes de sa famille politique. « Je perds un homme qui fut pour moi un exemple, un mentor et un ami », déclare pour sa part l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui fut son jeune ministre du budget. Sur le territoire, c'est le président du Rassemblement Alcide Ponga et la présidente du Congrès Virginie Ruffnac qui rendent hommage à Édouard Balladur en écrivant sur leur page Facebook que la France perd aujourd'hui une personnalité majeure de la 5e République et une figure emblématique de la droite française.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. À moins de 8 mois du scrutin, vous intéressez-vous déjà à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu les dimanches 18 avril et 2 mai 2027? Si vous vous y intéressez déjà, vous tapez 1. Si cela ne vous intéresse pas encore, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. Et vous êtes très confiant à l'unanimité. Les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la mission transpartisane va obtenir des aides financières de l'État. suffisante pour finir l'année 2026, mais aussi pour assurer l'année 2027. Il est 17h55, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, c'est bien sûr la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
J'ai envie d'un Burger King, j'ai vraiment pas envie de bouger.
Nidit.
Commandez.
Déjà.
Maintenant livré avec Nidit. Commandez sur www.nidit.nc.
Burger King.
Gagnez 100 000 francs de bons d'achat à dépenser comme vous voulez, où vous voulez. Envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, 100 000 francs sont à gagner. Et chaque SMS est pris en compte pour le tirage au sort du million. Envoyez RRB au 4020. Bonne chance. 371 francs par SMS. Règlement à l'accueil de la radio.
Info soir, Lionel Sabot.
La police nationale signale une disparition inquiétante. Sabrina Imov, 56 ans, n'a plus donné signe de vie depuis hier. Le 31 août à 6h30, elle serait susceptible de circuler à bord d'un Mitsubishi ASX gris immatriculé 443-460NC. 443-460NC. Toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs est invitée à contacter le commissariat de Nouméa au 24 33 36 24 33 36 ou en composant tout simplement le 17. Une convention de coopération signée ce matin entre le vice-rectorat et le groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle. Elle prévoit de développer des visites pédagogiques du pôle métier de la mer au JPNC à destination des élèves et de leurs enseignants. Objectif, rapprocher les jeunes calédoniens des formations et des métiers de la mer. Un intérêt majeur pour le vice-recteur Didier Vindatich.
À travers la convention, on va pouvoir promouvoir des formations et notamment le BIMER, qui est un diplôme d'entrée dans la mer, d'initiation à la mer, qui permet aux jeunes ensuite de mieux s'orienter sur des formations de type bac pro ou bac BTS en rapport avec les métiers de la mer dont le territoire a besoin pour poursuivre son développement. Donc il faut continuer à promouvoir la mer pour qu'il y ait davantage de formation. Surtout, je pense aussi, susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers de la mer.
Et c'est donc au JIEP à Nouville que les jeunes Calédoniens pourront trouver des réponses. Le pôle métier de la mer propose des formations spécialisées dans le domaine maritime. Philippe Darazon est le directeur du groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle.
C'est justement de pouvoir découvrir les métiers à travers les outils, à travers les formateurs, à travers les professionnels de la mer qu'on fera venir à cette occasion-là, aussi pour découvrir le panel et l'ensemble des métiers du maritime. On vient ici, on se met derrière un simulateur de navigation, on est face à la réalité, et on voit réellement tout l'intérêt qu'on pourrait avoir sur ce métier-là. Si on dit à un gamin, tu ne voudrais pas être pilote, ben ouais, mais c'est quoi un pilote? Viens voir. Voilà, donc c'est vraiment cette ouverture-là qui paraît intéressante. On met à disposition nos moyens pour pouvoir découvrir les métiers du maritime.
Et des visites pédagogiques du pôle métier de la mer du JIEP à Nouville pourraient être organisées dès les prochains mois, avant la fin de l'année scolaire. Près de 6 mois après son lancement, la prépa alternance de la CMANC est une réussite. Pendant 8 semaines, les participants ont été accompagnés pour reprendre confiance en eux, construire leur projet professionnel, lever les freins à l'emploi et préparer leur recherche d'entreprise. Lancé à titre expérimental en février dernier, le dispositif affiche un premier bilan positif. Sur les 10 personnes accompagnées, 8 sont aujourd'hui en alternance au CFA et salariées dans une entreprise.
Vous êtes dans Info Soir sur RRB, il est 17h58.
2h40 pour apprendre plus sur l'histoire de France. Une quarantaine de jeunes ont visionné ce matin la première partie du film en deux volets, la bataille de Gaulle, dans le cadre de leur programme scolaire, Liana Colombo.
L'histoire sur grand écran, c'est ce que propose le dispositif de la province sud Ciné Histoire. Ce matin, c'est au Ciné City que les collégiens et lycéens ont découvert l'histoire de la résistance française menée par Charles de Gaulle. Le film s'achève sur une séquence particulièrement intense, la bataille de Bir Hakeim, où ont combattu les volontaires du bataillon du Pacifique. C'est pourquoi le film a une résonance particulière en Calédonie, nous dit Loïc Basset-Crenier, troisième vice-président de la province sud.
Au-delà du film historique, c'est un film qui est très important, en particulier pour la Nouvelle-Calédonie, parce que ça concerne une période qui est vraiment charnière, pendant laquelle la Nouvelle-Calédonie, le 19 septembre 1940, a choisi volontairement de rallier la France libre Donc ça a été un acte fondateur dans l'histoire moderne de la Nouvelle-Calédonie. Le point d'orgue du film se situe aussi lors de la bataille de Bir Hakeim, une bataille dans laquelle le bataillon du Pacifique a participé. Donc c'est important. Pour savoir où l'on veut aller, il faut toujours se souvenir d'où l'on vient.
Apprendre depuis une salle de cinéma plutôt qu'une salle de classe, c'est certainement plus intéressant pour les jeunes, mais aussi cela est plus efficace pédagogiquement. C'est pourquoi le vice-rectorat a soutenu la démarche de la province sud, le vice-recteur Didier Vindatich.
La base historique est avérée, évidemment. On a fait un peu expertiser en quelque sorte le film pour s'assurer de sa parfaite adéquation avec les publics scolaires qui vise à toucher. Et donc, c'est un bon point d'appui. Et il est évident que les professeurs pourront rebondir sur ce film et mieux illustrer, en quelque sorte, ces passages-là de leur programme d'enseignement. Moi, je souhaite qu'effectivement, on renouvelle ce genre d'opération parce que je suis persuadé de l'intérêt pédagogique de cette initiative pour la réussite de nos élèves. Et je ne peux que remercier évidemment la province sud qui est à l'origine de cette opération.
Au total, ce sont près de 6000 élèves qui vont bénéficier du dispositif Ciné-Histoire, financé grâce à la dotation de solidarité républicaine de l'État.
À Dimbéa, le plateau sportif du groupe scolaire Michel de la Charlerie-Roali a fait peau neuve. Inauguré ce matin après plusieurs mois de travaux, l'équipement construit en 2016 avait vu son revêtement se dégrader au fil des années, au point de rendre sa pratique dangereuse pour les élèves. Une rénovation devenue nécessaire pour permettre aux enfants de retrouver un espace sportif sécurisé, Léana.
Une rénovation du plateau MDR, comme on l'appelle, qui a pu voir le jour grâce au partenariat entre la mairie de Dimbéa et l'État. La municipalité avait entamé les démarches en 2024 dans le cadre du plan 5000 équipements Génération 2024, porté par l'Agence nationale du sport. Objectif, permettre aux élèves de profiter du plateau en toute sécurité, mais aussi leur offrir un terrain aux couleurs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une rénovation qui doit également contribuer à redonner vie au quartier. Cynthia Jean, maire de Dimbéa.
L'école, ce n'est pas que des salles de classe, ce n'est pas que les livres, c'est aussi des activités physiques. On fait le lien maintenant aujourd'hui de façon scientifique entre l'activité sportive et le développement neurologique, psychologique des enfants. Donc c'est important que les enseignants aient un lieu qui les accueille et qui leur permette de développer des activités ludiques, efficaces, dans de très bonnes conditions aussi de sécurité, il faut le dire. Ce n'était pas le cas du plateau précédent. Puis aussi une reconquête pour le quartier, puisque, comme on le sait, Dimbéa-sur-Mer, c'est un quartier qui a souffert pendant les émeutes. Et là, grâce aussi au financement de l'État, on a pu recruter un éducateur sportif qui propose des activités périscolaires sur ce même terrain.
Un chantier d'un montant de 11 millions de francs, financé à hauteur d'un peu plus de 2 millions par la mairie de Dimbéa. Le reste étant pris en charge par l'État. Et ce partenariat entre les communes et l'État a déjà permis de financer plusieurs projets de rénovation. Arnaud Lozier est secrétaire général adjoint du Haut-Commissaire.
C'est une rénovation d'un plateau sportif qui se situe dans l'école. Et l'État, via l'Agence nationale du sport, est intervenu à 70%, ça représente environ 8,8 millions de francs. Et le reste a été pris en charge par la commune de Dimbéa qui a porté le projet. Il y a quelques mois, avec la maire de Dimbéa, on a inauguré à Jacaranda une salle de sport ouverte en barre d'immeuble. Et c'était une salle de sport ouverte au sein d'un quartier qui permet à des jeunes de venir et de pratiquer du sport encadré par des associations sportives et des clubs. Et c'est très important puisque le sport est un levier de cohésion sociale et de développement personnel. Et ça permet également d'occuper les jeunes lorsqu'ils sortent de cours et que plutôt qu'ils se retrouvent à traîner dans la rue.
À l'occasion de cette inauguration, une matinée sportive placée sous le signe de l'endurance a été organisée pour les quelques 450 élèves du groupe scolaire. Une matinée qui s'est achevée par une remise de médailles venue récompenser les efforts des jeunes participants.
Et un pouce bleu pour le plateau sportif MDR. Un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. C'est Virgile Denis, le nouveau directeur régional de Vinci Construction pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui sera demain notre invité du matin. Il sera interrogé sur le rôle de ce grand groupe et sur la place qu'il peut prendre dans les chantiers de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Une interview de Virgile Denis à suivre demain à partir de 7h30 sur Radio Rythme Bleu. 18h04, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, on parle patrimoine, sport et météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Paiement par téléphone, gratuit et sécurisé. Munissez-vous de votre carte bancaire et de votre dernière facture. Appelez le 05 36 36, c'est gratuit. Service ouvert de 7h25 à 16h ou 15h le jeudi et le vendredi. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et jusqu'au 20 septembre, la Province Sud organise la 32e édition du Mois du Patrimoine en Province Sud. Ce Mois du Patrimoine qui était au cœur de notre magazine citoyen à la mi-journée. Pendant plusieurs semaines, habitants et visiteurs sont invités à partir à la rencontre de l'histoire calédonienne au travers d'expositions, de spectacles ou encore de visites guidées. Une formule qui rencontre un vrai succès. Laure Moreau, présidente de la Commission de la Culture à la Province Sud.
Un vrai succès, pourquoi ? Parce que c'est gratuit, c'est sur toutes les communes, en effet, de la Province Sud. Et puis, c'est pour tout public. Donc, ça part de Thio à Yaté, avec des événements vraiment divers et variés. Et c'est à l'image même de ce qu'est notre patrimoine, j'ai envie de dire. Donc, avant 2024, il faut savoir que le Mois du Patrimoine avait quand même lieu sur toute la Calédonie. Et qu'aujourd'hui, il est malheureusement restreint qu'à la Province Sud. La Province Sud a fait un choix très clair aujourd'hui. L'objectif était de faire vivre notre histoire, de la faire découvrir, cette histoire commune. Il faut la valoriser, il faut la protéger. Il faut également sensibiliser tous les publics à la diversité de notre patrimoine. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller avec notre population. Il est donc aujourd'hui primordial de faire que ce patrimoine continue de vivre parce qu'en le faisant vivre, on va pouvoir le transmettre, on va pouvoir le partager et on va surtout pouvoir le faire évoluer.
Après des éditions 2024 et 2025 perturbées, ce Mois du Patrimoine 2026 reprend son format d'origine. Paul-Antoine Grandjean est le directeur de la culture, de la jeunesse et des sports à la province.
On est vraiment sur un format très familial, avec aussi beaucoup de passerelles donc, entre le patrimoine, la culture, le tourisme et la découverte des territoires, et avec un accès aussi de véritables séjours, de véritables escapades avec les familles, puisqu'on n'est pas que sur une simple découverte, une simple visite en fait, on est vraiment sur un dîner, des contes qui sont racontés, une soirée passée, un hébergement aussi, donc une nuitée et puis des activités sportives. Culturelle.
Il y a tout un écosystème, j'allais dire, qui se met en place autour du patrimoine à proprement parler.
Tout à fait. On sent vraiment une vraie envie. Plus de 600 personnes qui sont déjà venues découvrir un peu les différents événements qui ont eu lieu. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche plus de 80% des communes donc, de la Province Sud. Donc c'est vraiment chouette. Et beaucoup d'associations, beaucoup de particuliers aussi qui sont investis. Donc un beau début, une belle rentrée en matière. Et on en a encore pour plus de 2 semaines.
Et pour ce Mois du Patrimoine, la Province Sud s'appuie bien évidemment sur une vingtaine de partenaires et notamment sur les associations parmi lesquelles l'association Témoignage d'un passé que préside Yves Mermoud. Les associations qui veulent dans cet événement sortir du côté peut-être un peu et entre guillemets ringard de la simple visite de musée.
Nous on fait tout justement pour essayer d'éviter cet écueil-là et essayer d'offrir des choses qui soient dynamiques, qui soient nouvelles, qui soient intéressantes pour les gens. Et donc aujourd'hui dans tous les sites c'est la priorité à la numérisation du patrimoine pour proposer des choses qui soient numériques, qui soient avec des outils qui soient modernes, qui soient attendus par le public. On va partir effectivement des bâtiments, du bâti et tout ce qui est patrimoine immatériel avec les récits, les témoignages, les documents qu'on peut trouver à droite et à gauche. Et ensuite, il faut que tout ce fond, cette matière, en fait, les gens puissent s'en imprégner, l'assumer et développer leur identité à partir de tout ça. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose de très 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 complet. Et ça, c'est vraiment une priorité qu'on a au niveau des scolaires, notamment parce que c'est eux qu'il faut sensibiliser en premier lieu. Le patrimoine, c'est très large.
Le Mois du Patrimoine, c'est donc jusqu'au 20 septembre, le programme est disponible sur le site internet de la Province Sud. Quant au magazine Citoyen, qui fait en quelque sorte partie du patrimoine de Radio Rythme Bleu, il est disponible en réécoute sur notre site internet. Venons-en à l'actualité sportive avec l'objectif Coupe du Monde pour la sélection calédonienne des moins de 19 ans. Les jeunes cagous disputaient le premier match de la phase de groupe du tournoi océanien contre le pays hôte, les Samoa. Ils se sont imposés 4-2. Écoutez le sélectionneur Jules Wakanumune.
La gestion des émotions, c'était assez difficile. On a pu trouver la solution les 30 premières minutes. Nous, les points positifs, c'est que les garçons, ils ont été solidaires. On a pu garder cet esprit de combatif. Un premier match qui nous a servi de repère. On continue à travailler. Malgré la difficulté, malgré la chaleur, les conditions, on essaie de faire notre possible.
Les prochains rendez-vous dès vendredi, ce sera face aux îles Salomon, puis contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée lundi prochain pour le troisième et dernier match de la phase de groupe. Des centaines d'écoliers calédoniens se sont retrouvés autour du sport ce mardi à l'occasion de la 15e édition des mini-jeux de l'avenir. Plus de 700 jeunes du CP au CM2 issus de 18 écoles se sont rassemblés à Nouméa au stade du Madélé, mais aussi à Koumac, Touo et Lifou. Élèves en situation de handicap et élèves sans handicap ont partagé ce matin les mêmes ateliers et ont relevé ensemble les mêmes défis sportifs.
On va faire du sport, on va tourner où il y a les activités.
Il y a quoi comme activité?
On va faire du vortex et puis on va faire le parachute et on va courir comme ça. Ça permet de se connaître puis de travailler ensemble.
J'adore le softball parce que c'est mon activité préférée avec le vortex. C'était génial.
Notre activité, ça s'appelle le
parcours à l'aveugle.
Le principe, c'était de bien guider l'aveugle.
Alors, est-ce qu'elle t'a bien guidé?
Oui.
Ça commence bien et c'est trop cool.
Une matinée sportive placée sous le signe de la rencontre et de l'inclusion, explique Nina Juillet, membre du gouvernement en charge des sports.
On organise cet événement pour que les jeunes apprennent à se rencontrer, à se respecter, à travailler ensemble, à se dépasser aussi dans l'effort tous ensemble. Voilà, donc c'est une journée où il n'y a pas de filles, pas de garçons, pas de petits, pas de grands, pas de différence. On est tous là pour s'amuser et remporter des défis en collaborant et en coopérant. Ça inclut des enfants handicapés qui sont déjà inclus dans les classes, mais on veut organiser ces jeux pour leur montrer que chacun a des forces, chacun a des faiblesses et qu'en s'entraidant, on peut parvenir à se dépasser.
Une manière de rappeler que sur le terrain, comme à l'école d'ailleurs, l'inclusion passe aussi par des expériences partagées. Allez, on termine ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sur les murs depuis 1971. Showroom sur les bains à Ducos. Magasin peinture à Ducos et Enguea. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous, Ismaël. Pas de vigilance particulière et une nuit plutôt sympathique en perspective.
Bien étoilée, surtout sur l'ouest et ailleurs, des paquets nuageux circulent encore avec de faibles averses sur l'est et les Loyautés. Le vent d'est-sud-est de 15 à 20 nœuds s'établira comme ça en début de nuit et mollira progressivement autour de 10 nœuds sur le littoral ouest et le sud-est. Les températures minimales, elles, sont comprises entre 16 et 19 degrés sur le littoral et moins dans les terres de 11 à 14 degrés.
Un petit coup d'œil à demain matin.
Les nuages inoffensifs et le soleil se partageront le ciel. Nuages qui seront localement plus nombreux sur le sud-est, l'île des Pins et les Loyautés avec de petites andées. Le vent d'est-sud-est soufflera quant à lui entre 10 et 15 nœuds le matin. La façade ouest sera généralement déventée.
Et demain après-midi, les nuages sont de retour.
Et qui se formeront sur la chaîne et s'étaleront progressivement sur l'ouest. Nuages qui circuleront également sur la pointe sud et les Loyautés. Une ondée ne sera pas exclue et le vent s'établira quant à lui d'est-sud-est et se maintiendra entre 10 et 15 nœuds. Il se renforcera de 15 à 20 nœuds sur l'ouest en s'orientant au sud-est. On termine avec les maximales qui seront stationnaires. Elles iront de 23 à 27 degrés.
Merci beaucoup Ismaël, c'est la fin de ce journal.